DW. Économie et développement.
Comment transformer l'industrie africaine du cuir et la positionner sur le marché mondial? Le cuir africain est resté longtemps méconnu malgré une prise de conscience des consommateurs pour une consommation locale et un fort potentiel du secteur qui devrait lui permettre de couvrir la demande locale et de s'orienter vers les marchés extérieurs. Les initiatives des jeunes entrepreneurs et la valorisation du Made in Africa pourraient être des solutions. Et puis nous parlerons également de l'influence des corridors dans le développement des pays africains. Gros plan notamment sur le cas du Burundi dans l'espace économique d'Afrique de l'Est. Économie et développement, c'est Rodrigue Guezodia au micro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
DW.
L'industrie du cuir est l'une des plus anciennes de l'histoire de l'humanité. Le cuir est fabriqué à partir de la peau de n'importe quel mammifère, reptile, oiseau ou même poisson, par un processus appelé tannage. Un processus qui permet de préserver la peau, qui autrement se putréfie rapidement. Aujourd'hui, au moins la moitié du cuir produit est utilisé pour les chaussures et environ un quart pour les vêtements. Seuls 15% environ sont utilisés pour l'ameublement et le reste est transformé en articles de maroquinerie et autres produits de consommation. Les pays africains possèdent 20% des bovins, ovins et caprins du monde, mais ne produisent que 15% des cuirs et peaux mondiaux. Tandis que les autres pays en développement ont fortement accru leur part de la production mondiale de chaussures en cuir par rapport aux pays développés, les Africains ont réalisé une portion presque insignifiante. La pénétration de leur marché intérieur de produits en cuir par les importations d'autres pays en développement est estimée à 73%. Ainsi, malgré un potentiel énorme et une abondance de la matière première, cette industrie semble avoir encore du plomb dans l'aile. Ibrahim Andiémé, spécialiste du cuir et entrepreneur du secteur au Sénégal, dresse une liste des facteurs qui nuisent à la croissance et à la compétitivité de l'industrie africaine du cuir.
D'abord, on a des facteurs d'ordre culturel. Il s'agit de cette mentalité du consommateur africain. L'Africain n'est pas vraiment consommer local. Donc ça, je pense que c'est un des freins qui bloque cette évolution de ce secteur. Ensuite, on peut noter les exportations des matières premières, parce que cette matière première qui est plus ou moins abondante ici dans le continent est souvent exportée à l'extérieur et c'est à ce niveau que la matière est transformée et ensuite on nous les ramène ici en Afrique pour nous les revendre à l'état cuir. Parce qu'il faut savoir que nous, on les exporte à l'état brut, c'est-à-dire c'est pas encore du cuir, c'est de la peau. Donc le potentiel, il est méconnu de nos dirigeants en fait, je pense. Et en dehors des exportations de ces matières, on peut aussi noter l'importation des produits du cuir. Parce que la plupart des produits que l'on propose, on a des concurrents asiatiques ou européens qui proposent les mêmes articles ici en Afrique. Donc et vu que c'est des continents beaucoup plus développés que l'Afrique, donc c'est sûr qu'en termes de compétitivité, ça ne sera pas à notre faveur, on va dire. On peut aussi noter le manque de cadre économique, parce que ce manque de cadre économique est lié directement à un manque de vision de nos dirigeants. C'est vraiment un paradoxe qui bloque le secteur et qui l'empêche d'évoluer comme il le faut.
Il est donc indispensable de dépasser les difficultés de ce secteur, d'une importance stratégique pour le développement économique et industriel de nombreux pays africains. Dans la plupart des pays, le sous-secteur du cuir et de la fabrication de chaussures fournit déjà 4 ou 5% de l'ensemble des emplois industriels, avec des contributions à la valeur de fabrication ajoutée, par exemple de 3% en Égypte, 8% en Tunisie et plus de 7% en Éthiopie, où la population bovine est la plus nombreuse d'Afrique. La valeur ajoutée est aussi considérable dans d'autres pays comme le Mali, le Burkina Faso ou encore le Sénégal. La réalisation du potentiel de l'industrie africaine du cuir apporterait des gains économiques importants au continent. Mais que faire pour la concrétiser?
Je pense qu'il faut essayer de créer les conditions qui permettent de promouvoir les entrepreneurs locaux qui sont dans le domaine. Mais ensuite, il faut essayer de créer un cadre économique favorable, limiter les importations des produits du cuir et mettre en place aussi des unités industrielles de production et des unités de transformation des matières premières. Comme ça, à la place, au lieu de prendre la matière première et de la vendre à l'extérieur, il serait plus intelligent d'essayer de les transformer ici en Afrique. Comme ça, la matière sera prête à l'utilisation finale. On va aussi ajouter la sensibilisation des consommateurs africains, parce qu'il faudrait qu'on essaye de les faire comprendre l'impact que le consommateur local peut avoir sur l'économie du pays ou l'émergence de manière générale.
C'est justement ce qui se met en place dans certains pays comme le Kenya. Le Kenya, où le gouvernement prévoit de suspendre les importations de chaussures en cuir d'ici la fin de l'année 2025. Dans ce pays, la production de l'industrie locale des chaussures en cuir couvrait, selon les statistiques du réseau de l'industrie du cuir d'Afrique de l'Est, à peine 20% des besoins en 2020. Un peu plus de 8 millions de paires de chaussures en cuir y ont été produites pour une demande qui s'élevait à plus de 40 millions de paires. Et pour combler son déficit de production, le Kenya importe principalement depuis les États-Unis et la Chine. La décision de l'interdiction va donc réduire la facture des importations et stimuler à terme les investissements pour booster la production de l'industrie locale. N'est-ce pas, Ibrahima Diémé?
Ouais. C'est vraiment ces genres de points qui nous permettent d'essayer de relancer le secteur. Par exemple, la démarche du Kenya est la meilleure pour le continent, je vais dire. Parce qu'il faudrait qu'on essaye de changer les paradigmes afin de relever le défi. Il faudrait qu'il y ait une certaine cohérence entre nos aspirations et nos pratiques. Et pour développer le continent africain, il ne faut pas être fermé au monde, mais il faut au moins avoir un certain cadre qui permet de protéger les entrepreneurs qui sont dans le domaine. Donc il ne s'agit pas de bloquer totalement les importations, mais au moins se laisser des quotas ou essayer de voir sous quelle mesure on peut favoriser d'abord les entrepreneurs locaux avant de parler d'importation des produits que l'on peut faire ici.
Le Sénégal aussi fait partie des grands pays transformateurs et exportateurs de cuir. Quel est l'état des lieux dans le pays ?
Oui, je confirme. Le Sénégal est un grand pays exportateur de cuir. C'est un pays où l'élevage est vraiment à un niveau très élevé. La matière y est. Par contre, pour ce qui est de la transformation, je ne pense pas que le Sénégal soit à un certain niveau, en fait. Je doute vraiment de sa capacité de transformation du cuir. Parce que ici, les artisans locaux, les cuirs sur lesquels ils travaillent, souvent, c'est des produits qui viennent des pays comme l'Italie, comme la Turquie, comme la Chine, etc. Ouais, mais par contre, pour ce qui est de la transformation, je pense qu'il y a toujours moyen de définir le cadre dans lequel cela pourra se faire. Donc, il faudrait juste qu'il y ait une vision et une certaine volonté de nos dirigeants à vouloir mettre en place ce cadre afin de donner un coup de pouce aux entrepreneurs locaux.
Ibrahima Diémé, vous êtes entrepreneur dans le secteur à Dakar avec votre start-up dénommée Vich Industry, spécialisée dans la confection de chaussures et de vêtements. Quelle est la part du cuir dans vos activités?
Oui, nous, on est une entreprise spécialisée dans la fabrication de chaussures. Et notre matière préférée, on va dire, c'est le cuir et le daim. Et le daim, ça vient du cuir. Donc le cuir représente, c'est-à-dire le centre même de notre activité. Tellement ça représente le centre de notre activité qu'on préconise de mettre en place des unités de tannerie, etc. pour comme ça éviter d'avoir des ruptures de matières premières, etc. Parce que c'est vraiment le socle même de l'activité, on va dire.
À l'instant, Ibrahima Diémé, spécialiste du cuir et promoteur de Vich Industry, start-up spécialisée dans la confection de chaussures et de vêtements au Sénégal. Économie et développement, la suite. DW. Savez-vous ce qu'on appelle un corridor de transport? C'est une structure multimodale composée d'axes routiers, ferroviaires, fluviaux ou encore aériens, fournissant une connexion économiquement efficiente entre des centres d'activités économiques d'une ou plusieurs zones enclavées, d'un ou plusieurs pays à un pays voisin ayant un accès maritime. Les corridors les plus modernes se composent également des oléoducs, gazoducs, des lignes à haute tension ou de la fibre optique. Sur le continent, il en existe plusieurs, dans presque toutes les régions. On peut citer le corridor de développement de Maputo en Afrique australe, qui relie le principal port de la capitale du Mozambique aux provinces de Gauteng, Limpopo et Mpumalanga en Afrique du Sud. Il y a le corridor nord, reliant Mombasa à Kigali, ou encore le corridor central reliant Dar es Salaam à Kigali, en Afrique de l'Est, une communauté dont est membre le Burundi depuis plus d'une quinzaine d'années. Il s'agit en fait d'un mécanisme de connectivité régionale qui vise l'intégration et l'accroissement des échanges commerciaux entre les pays de la sous-région. Malgré les barrières tarifaires et non tarifaires que connaît le mouvement des biens selon les importateurs et les transporteurs, des initiatives font bouger le secteur pour lever les obstacles à l'intégration économique et à la libre circulation des marchandises dans la zone. Reportage d'Antéditest Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
Créé en 2006, le Corridor Central est une agence intergouvernementale réunissant le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Le Corridor Central, dont la mission est de faciliter le mouvement des personnes et des cargos du port de Dar es Salaam en Tanzanie vers ces pays membres qui n'ont pas d'accès à la mer, doit faire face à certaines difficultés pour rendre le transport florissant. Au nord du Burundi, à sa frontière avec la Tanzanie, de longs véhicules assurent l'échange de marchandises entre les deux pays.
De la Tanzanie à la frontière de Kobero, j'ai passé 2 jours. Je viens de passer au total 10 jours d'attente ici. C'est comme une affaire. Tu dois garer le véhicule à l'intérieur, payer une chambre d'hôtel avec le co-chauffeur. Le matin, pour reprendre le voyage, on doit payer 15 000 francs de parking. Si le véhicule tombe en panne, on paye 100 dollars. On n'est même pas autorisé à occuper à deux la même chambre d'hôtel. Et chaque véhicule paye 2000 francs par jour.
C'est Amis Mubarak Mukali, un camionneur tanzanien, qui fustige la lenteur des services douaniers. Trop d'exigences, s'indigne également Hussein William. Ce conducteur suggère l'allègement de procédures pour fluidifier la libre circulation des biens dans la communauté.
Souvent, nous amenions les marchandises au Burundi. On se disait que le fait d'adhérer à la communauté est-africaine est un pas vers l'union comme des frères. Mais c'est plutôt le contraire. Pour entrer au Burundi, à part le ticket, les exigences sont nombreuses.
Plus de temps passé à la frontière implique de nombreux coûts supplémentaires et plus de consommation de carburant qu'est prévu. Et cela impacte du coup sur les prix de marchandises à la destination. C'est le consommateur qui en subit les frais. Nous sommes rendus au marché pour faire le constat. Les difficultés rencontrées au cours de l'importation se répercutent sur la fixation des prix sur le marché. Les études confirment que les barrières tarifaires et non tarifaires sont un véritable obstacle à la fluidité du transport de biens pour un commerce florissant, une économie régionale émergente et une Afrique qui bouge. N'ayant d'accès ni à la mer ni à l'océan, le Burundi doit se désenclaver. Pour l'Association des transporteurs internationaux du Burundi, le transport lacustre sur le lac Tanganyika doit être redynamisé. Mirène Ravzalimana est la secrétaire exécutive de l'association.
La solution viendrait des pays membres de l'EAC, revoir le fonctionnement, comme ce système de l'union douanière, baisser les frais de transit, faire comme un marché commun au fait. Et une autre solution aussi pourrait se présenter, si les importateurs venaient à utiliser la voie lacustre. Parce que sur la voie lacustre, c'est d'un port à un autre. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de péage routier.
Au final, c'est un apaisement pour le petit consommateur. Mais comment y arriver? La suppression d'un certain nombre de barrières s'impose. Face à cela, les pays membres du corridor central s'attellent à la réhabilitation et à l'amélioration des infrastructures de transport. Le nombre de bateaux s'accroît sur le lac Tanganyika. La réhabilitation et la modernisation des ports sont en cours. L'économie bouge au sein du corridor central, affirme Fleury Okanjou Okonje, secrétaire exécutif de l'agence de facilitation du transport de transit du corridor central.
Si le transport il est fluide, le coût de transport devient moindre, même l'accès aux biens et services devient facilement faisable parce que les populations de la région ou de ces pays se procurent ces biens et services à un coût abordable. Le transport, c'est le véhicule qui porte le commerce. Le commerce, à son tour, porte l'économie. Et l'économie, à son tour, porte le développement.
La croissance économique du corridor central est de 2,5% selon les récents rapports de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le Burundi doit s'inspirer de l'extension et des opportunités du marché pour bénéficier pleinement des dividendes de la communauté. C'est l'avis de Faustin Dikoumana, consultant en macroéconomie.
On adhère dans une organisation d'intégration régionale pour accéder aux dividendes liés au développement économique et au bien-être des citoyens, pour doper la croissance économique, les exportations.
Nous avons toujours demandé de manifester la volonté politique à travers des actes concrets pour permettre d'ouvrir les horizons à cette jeunesse qui a plus de 70% de la population.
Une jeunesse dont une grande partie fait face au chômage et tente souvent avec succès de se frayer un chemin dans l'entrepreneuriat innovant et le montage de projets compétitifs sur le plan régional et international afin de bouger les lignes pour la réussite de l'intégration socio-économique. Antéditeste Niragira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
C'est avec ce reportage d'Antéditeste Niragira sur l'influence du corridor central dans le développement du Burundi et ses voisins que s'achève ce numéro d'économie et développement. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter en podcast sur notre site www.dw.com/français. Prenons déjà rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous.